Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h51, nous allons forcément continuer de parler de Bernard Tapie dans tous les domaines. On n'arrête pas de dire qu'effectivement, il a excellé dans pas mal de choses. Alors, il y a pas mal de contradicteurs sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez continuer de commenter ou de nous appeler 0826-300-300 si vous avez envie de parler de lui, de raconter une anecdote ou de nous dire ce que vous préfériez en lui. Et pour en parler ce matin, Thierry Guerrier et André Bercoff.
Oui, avant de retrouver dans un instant, vous allez voir. Il y a par exemple Avi Assouli, qui a été commentateur de l'OM, qui avait eu la fameuse chute à Furiani, et il dit « Tapie m'a sauvé la vie ». Il y aura Gilbert Collard aussi, du Rassemblement National, parce qu'évidemment, Tapie a mené un combat contre Jean-Marie Le Pen, et Gilbert Collard était aussi aux premières loges, et ils ont bataillé dans beaucoup d'affaires. Il y aura Sonny Anderson aussi, ce joueur en fait...
brésilien.
Qui est brésilien, évidemment, qui est venu au moment des affaires, qui minait, etc. Et puis, on terminera aussi par Tapie le comédien, Tapie le chanteur, et Tapie l'ami d'André Bercoff aussi. André, bonjour.
Bonjour André.
André.
Est-ce qu'il est là ? André ?
Ah bah André Bercoff, bah il était en ligne il y a un instant avec nous.
Alors, ah il est là, on l'entend.
Oui. Alors, André. Alors, bon, alors on va retrouver André Bercoff dans un instant. Juste avant ça, je voudrais qu'on réécoute un petit extrait de Bernard Tapie. Vous allez l'entendre sur une minute, Bernard Tapie, une petite minute où il parle de son combat, évidemment, du côté de l'arbitrage et puis du Crédit Lyonnais.
C'était à votre micro.
Et en même
micro.
Temps, oui, c'était à notre micro. C'était il y a 2 ans. Et je lui parlais de la maladie aussi à cette occasion, d'où cela venait, quoi. Écoutez donc Bernard Tapie. Sur une minute.
Les médecins vous disent que tous les cancers digestifs, c'est à 80% parce que l'on boit, parce que l'on fume ou parce que l'on mange. Et il reste 20% pour ce que le dicton populaire appelle se faire du mauvais sang ou se faire de la bile. Voilà. Ouais. Et ben moi, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai pas mangé beaucoup de gras, j'ai fait énormément de sport, mais je me suis fait beaucoup de bile.
Mais aujourd'hui, ça vous donne de l'énergie quand même, hein, pour vous défendre sur ce procès.
Ah oui, bah oui, enfin, on verra. Il n'y a pas de surhomme. Hein.
Non. Vous aviez dit à l'époque, Adidas, c'est l'affaire de ma vie.
Bah,
c'est,
je continue c'est... de le penser.
Ouais, elle vous a poursuivi toute votre vie, quoi.
Ah non, elle m'a pas poursuivi. L'affaire, je suis très contente. Elle cote de... quand je l'ai reprise, elle valait 500 millions de francs. Quand elle était en bourse 3 ans après, c'était 11 milliards de francs. Et aujourd'hui, elle vaut 30 milliards d'euros. C'est-à-dire que Adidas a fait... que toutes les autres boîtes, que l'OM, que le cycliste, elles ont toutes eu le même destin, figurez-vous.
Ouais.
Voilà. Il y a des gens qui savent et il y en a qui ne savent pas.
Voilà, donc c'était cette interview de Bernard Tapie où il disait, donc ça venait beaucoup, sa maladie probablement, de ça. On a retrouvé André Bercoff qui est avec nous. André ?
Oui,
ah, bonjour. André.
Bon.
Bonjour André.
Patrick, bonjour Cécile.
Bon, André, vous... Avant de parler de Tapie et les affaires et son combat politique, etc., c'était aussi un ami, André.
Ben écoutez, il faut que je vous raconte ma première rencontre. J'avais écrit, vous savez, Caton, livre de politique, voilà, à l'époque, c'était en 84.
Oui.
Il a demandé à me voir, et moi je me suis dit, Bernard Tapie, vous savez, c'est le flambeur, l'homme d'affaires, tout ça. Je dis, oui, ben pourquoi pas. On se voit, on parle, et effectivement, vous savez, c'est la séduction de Tapie. Il est, on est pris. Et puis un jour, il me dit, écoute, il y a des dizaines d'éditeurs qui me demandent de faire ma biographie, mais si je le fais, je le fais avec toi. Et on a édité, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est moi qui travaille avec lui, enfin on a travaillé avec lui, sur Gagné. C'était donc en 85. Et là, j'ai pu mesurer à ce moment-là, Patrick, le phénomène Tapie, qui avait une popularité, ça je peux vous en raconter des histoires, incroyable. Une histoire, simplement.
Oui, oui.
Un jour, je connaissais la mère d'Aurillac dans le Cantal. Aurillac dans le Cantal, il me dit, ah, est-ce que tu pourrais pas faire venir Tapie et tout ça? Je lui dis, mais qui me dit, qu'est-ce que je vais aller faire à Aurillac dans le Cantal? Bon, il y aura quoi, 500 personnes, etc. Je lui dis, ouais, mais viens, il est vraiment bien, ils sont sympas. Et on va là-bas. Et il y avait 5000 personnes. Les gens étaient venus de toute la région, d'au-delà du Cantal, etc. Il y avait cette espèce d'incroyable, c'était donc avant la politique,
ouais.
C'était cette incroyable attraction qu'il avait avec les gens et qui était là.
Ouais. Et ça, ça venait de... Il avait lancé une émission à la télé à l'époque, hein, Ambition, je crois.
Ambition.
Oui, voilà,
Ambition,
c'est ça.
Sur TF1.
Oui, c'était pour montrer que on pouvait tous réussir, quoi, à partir du moment où on avait un peu de l'ambition. Et d'ailleurs, on avait un témoignage ce matin sur Sud Radio de l'une de ses premières élèves, parce qu'il avait lancé des écoles de commerce, Bernard Tapie.
Oui, exact.
Et
exact.
À Ambert, vous parliez d'Aurillac en Auvergne, ben, il en avait lancé une, notamment à Ambert et à Béziers, notamment.
Ouais.
Et c'était ça, c'était cette attractivité pour ce qu'il était, montrer qu'on pouvait s'en sortir, quoi. L'ascenseur social fonctionnait avec lui.
C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier, c'était vraiment le moment, c'est très intéressant, le timing est toujours intéressant. Mmh. C'est le moment de grand tournant. Rappelez-vous, les socialistes parlaient socialistes, ils se sont remis à parler français en 83. Ils ont dit, bon, très très bien, nationalisation, tout ça, ça n'allait plus, le franc, etc. Et rappelez-vous qu'en 84 sort un documentaire à la télévision qui a fait un bruit fou, Vive la crise.
Oui.
C'était présenté par Montand, vous savez, il y avait voilà, Philippe de Villiers et compagnie, et il y avait Tapie. Donc Tapie est arrivé à point pour dire, je suis de gauche, mais je suis entreprise, je peux y arriver, comme vous disiez, etc. Et la réconciliation gauche et entreprise a été incarnée et par Tapie à ce moment-là. C'était très intéressant dans les années 80-85. Alors les uns qui le détestaient disaient « ouais, c'est les années fric », mais les autres disaient « ah, formidable, effectivement, l'ascenseur social se remet à fonctionner ».
Mais il a fait rêver les Français avec l'ambition, justement, et en parlant d'initiative.
Oui. Ah ben, il a fait plus que rêver les Français, ce qui était intéressant d'ailleurs. Vous savez, sans faire des parallèles, Trump s'est fait connaître pendant 15 ans aux États-Unis avec The Apprentice, où il convoquait les gens et leur disait « you're fired, ça marche, ça ne marche pas, etc. » Paradoxalement, 20 ans avant ou 15 ans avant, Tapie avait fait Ambition. Et Ambition, c'était tous les jeunes qui venaient avec des projets. Je rappelle que le premier projet d'Ambition, c'était quelqu'un qui voulait élever des vers de terre pour le compost. Eh bien, ça avait été une espèce d'extraordinaire succès. Voilà, il faisait venir des jeunes, ouais. Alors il y avait un jury d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, etc. Et c'est vrai que l'émission a eu un succès extraordinaire à l'époque.
Ouais,
je vais juste vous citer une petite citation qu'a dit Bernard Tapie. Il a dit « Quand Mitterrand m'a fait venir pour déjeuner chez Séguéla, il m'a dit « J'ai vu l'émission Vive la crise et même moi, vous m'avez donné envie de faire ce métier et d'être entrepreneur. » Ce qu'a dit Mitterrand à Bernard Tapie.
Et Mitterrand, qui, comme vous le savez, avait un sens aigu, non pas des affaires, mais de la politique, a senti le potentiel de Tapie. Et il faut rappeler que c'est très important, peut-être que ça a joué à ce moment-là, à terme, ça l'a desservi, mais c'est Mitterrand qui a lancé Tapie en politique, il ne faut jamais l'oublier.
Oui.
C'est lui qui lui a demandé d'aller aux législatives, etc., etc., les élections pérennes, mais européennes et tout ce qu'on sait.
Oui, et puis après, il y a eu parfois des trahisons. Et vous allez nous raconter, vous restez avec nous, André, parce qu'on va en reparler de ce chapitre politique dans un instant, notamment avec un meeting, je crois que c'était du côté de Marseille, qui était particulièrement intéressant, où là, on voyait tout le caractère de Bernard Tapie avec son courage. On voit ça dans un instant avec vous et d'autres invités politiques. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, dans quelques instants, la suite des grands débats, hein, toujours avec Thierry Guerrier et André Bercoff. En attendant juste...
Et d'autres grandes voix, évidemment, qui vont être avec nous. Hein. Bien sûr, restez là. Et vous, 0826-300-300. Je voudrais vous entendre hein, sur Bernard Tapie. On avait Julien ce matin qui était particulièrement intéressant. J'imagine que vous êtes nombreux aussi à vouloir réagir. Donc allez-y, 0826-300-300. Il y en a déjà qui ont appelé, mais c'est pour autre chose.
Hein. Ah oui, c'est pour autre chose. C'est pour gagner un joli cadeau.
Eh oui.
Et un cadeau pour partir au Futuroscope. Deux adultes, deux enfants, un séjour de deux jours en famille. Et pour accueillir ce matin, Patricia qui nous appelle de Toulouse.
Bonjour.
Bonjour Patricia. Patricia.
Bonjour.
Bon, vous êtes la grande gagnante ce matin pour partir au Futuroscope. Vous y êtes déjà allée ?
Oui, il y a très longtemps, très très longtemps, donc je me ferai un plaisir d'y retourner.
Allez voir, ça a bien changé, en tout cas ça va être un voyage, un séjour magnifique, vous allez y aller avec vos enfants j'imagine, enfin je ne sais pas si vous avez des enfants.
Mes petits-enfants.
Avec la dernière attraction Objectif Mars et le premier roller coaster du Futuroscope, vous allez voir, ça va être un grand moment.
Le roller coaster, c'est pour vous ça le roller coaster ou pas?
Pas pour moi, non.
Mais si, il faut tout essayer.
J'ai pas d'équilibre. Enfin, je me méfie quand il y a roller dans le mot, je me méfie.
Oui, mais vous serez bien attaché, vous inquiétez pas. Le seul, vous connaissez le texte. Le texte, c'est « Ah !» C'est
oui,
ça.
Voilà. Je m'en rappellerai. Pas de soucis.
Et vous nous écoutez depuis longtemps, Patricia?
Oh, depuis très longtemps, oui, le matin surtout. Et je vous adore, Cécile, je vous adore. Je vous fais un gros bisou.
Patrick aussi, d'ailleurs.
Cécile, je vous adore.
Bah, vous êtes
il y a
trop
le sourire qui paraît dans votre voix.
C'est vrai, ouais. Matin, oui, c'est vrai.
Ça me met de bonne humeur.
Du soleil.
Du soleil.
Du soleil, du soleil.
Mais du soleil. Même quand il y a des pires tempêtes avec Cécile, il y a toujours le soleil. Quoi. C'est
mignon.
Ça qui est formidable.
Voilà, vous avez un truc à me demander, Patrick, ou pas?
Non,
vous voulez partir au Futuroscope? En tout cas, merci beaucoup,
Patricia. Patricia, vous, Bernard Tapie, quel souvenir vous gardez de lui, Patricia?
On a coupé le son
juste avant.
Merci beaucoup, Patricia, d'avoir joué avec nous. On vous embrasse très très fort. Et la suite du Grand Matin Sud Radio. Et c'est avec Thierry Garrier. Hein, vos témoignages, on l'a dit, 0826-300-300, vous voulez parler de Bernard Tapie ce matin. Et on est toujours en direct avec Didier Berkoff.
Didier Berkoff. André, on vous a renommé ce matin. Ça vous convient? Et vous avez
vu
l'histoire des prénoms de Zemmour, ça va jusqu'à André Berkoff.
On a toujours l'habitude de l'appeler Dédé que finalement, voilà. André Berkoff est avec nous. Est-ce que vous nous entendez, André?
Oui.
Toujours un petit problème. Je le vois
décidément,
parler.
Ce matin, on a des problèmes en fait de son. Avi Assouli est avec nous également. Bonjour Avi Assouli.
Bonjour.
Bonjour Avi.
Bonjour Avi. Alors Avi, ancien commentateur sportif des matchs de l'OM. Hein, vous avez été aussi. Vous êtes lancé en politique après, député socialiste. Avi, vous avez été marqué évidemment par les années Tapie à la tête en fait de l'OM. Tapie aussi qui vous a aidé directement dans le drame de Furiani.
Oui, tout à fait. Oui. Je lui dois la vie. Hein. C'est ce que j'ai expliqué à pas mal de gens toute la journée d'hier.
Ouais.
C'était Furiani. Je salue André Berkoff, qui était aussi l'ami de Bernard.
Ouais.
Je le voyais souvent avec lui. Le drame est arrivé. Ce n'est pas moi qui raconte, c'est Pascal Olmeta qui l'a raconté à l'équipe. Et plus tard, quand Bernard Tapie m'a reçu chez lui... longtemps après, il m'a raconté aussi en riant, il m'a dit « je t'ai fait du bouche à bouche », mais ça c'est Bernard. Et donc je tombe et je suis dans les VWAP, bien sûr, je suis dans le coma complet, je suis resté d'ailleurs 21 jours dans le coma. Et l'histoire est la suivante, il y a le médecin urgentiste, enfin le médecin de l'OM qui a été pris comme médecin urgentiste, qui fait le tour des blessés, de ceux qui sont tombés malheureusement là. Et il vient vers moi, et puis on me met un sérum qui est tenu par un joueur. Il y avait Casoni, Amoros, et surtout Pascal Olmeta. Et il fait le tour, il dit « attendez, je reviens ». Et quand il revient, mon cœur, juste à ce moment-là, a dû s'arrêter, etc. Donc on me met le drap sur la tête, et puis ils font quelques pas. Et puis Pascal et son ami se retournent, et ils voient le drap bouger, donc ils reviennent, et je crache du sang, etc. C'est ce qu'on me raconte, hein, bien sûr. Ouais. On m'emmène sur le terre-plein comme ça, vite fait, et le docteur urgentiste, ce jour-là, qui est le médecin de l'OM, Jean Duby, lui, il dit « c'est fini », alors Tapie vient, il était ministre de la ville à ce moment-là, et Tapie dit au doc, il dit « doc, allez, envoie à ville, il y a l'hélicoptère, envoie-le vite ». Et la réponse du docteur de l'OM qui lui répond « mais Bernard, à vie, il ne passera pas la nuit ». Et il a cette réplique, le boss, il lui dit « ça fait rien, envoie-le quand même ». Et j'arrive là-bas, on ouvre de partout, enfin bref. Puis après, trois, quatre jours après, on me retrouve sur la timone. Et 21 jours après, je me lève, j'ouvre les yeux. Et Tapie est venu plusieurs fois me voir à l'hôpital. Ça, c'est Tapie, quoi. Il aimait pas trop la presse. Bon, moi, j'avais un rapport particulier, bien avant la chute, heureusement. Et il a aidé pas mal de blessés, pas mal de gens ce jour-là.
Ouais. Avi, vous étiez très étonné quand vous avez rencontré Bernard Tapie pour la première fois, puisque vous dites, quand il est arrivé en pull.
Oui.
Hyper décontracté.
Je me souviens, j'étais en tribune de presse, tout le monde, c'était la foule. Defer était là, il était rentré avec Bernard Tapie. À ses côtés de Bernard, il y a Michel Hidalgo, le sélectionneur tout frais, qui pensait mettre en place. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait par la suite. Et puis, je l'ai vu en pull décontracté. À sa gauche, il y avait le président Carieux, qui était encore en exercice,
ouais.
Il voulait pas, que Dieu ait son âme, lui aussi, s'est suicidé par la suite. Et puis, il y avait deux frères, le maire de Marseille, cet immense bonhomme, qui était également ministre à cette époque-là, et qui recevait Bernard, et il regardait le match, etc. Ça souriait, etc. Et il avait un pull tout bariolé, gris et noir, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, à la suite, vous la connaissez, il a été mis en place, et l'OM est parti de l'avant, et a remporté tous ses titres.
Avis, vous avez dit aussi, parce que vous avez eu un rapport particulier parce qu'il vous a sauvé la vie, mais avant cela, dans ses rapports avec la presse, parce qu'il avait des rapports parfois un petit peu durs, houleux, tendus, non ? Comment ça se passait alors ?
C'est normal, enfin c'est normal.
Oui, bah bon.
On l'a pas laissé tranquille, cet homme. Vous savez, n'importe quel bonhomme aurait dû mourir 10 ans avant, tellement il y a eu de l'acharnement sur ce bonhomme. Et donc, il laissait personne indifférent, et puis il répondait carrément, il laissait personne prendre l'initiative. C'était lui qui dirigeait, c'était un homme extraordinaire, un visionnaire d'ailleurs. Mmh. Moi, je sais pas, j'ai tant de respect pour lui, pour tout ça, mais bon... Il avançait, c'était un taureau, il avançait. Et il c'était comme dans un jeu de qui, quoi. Il balançait, il donnait un coup de pied dans la fourmilière. C'était ça, Bernard. C'était j'arrive, je vais, je gagne, je m'en fous du reste. Oui. Il n'avait peur de rien. Et voilà, c'était une réussite complète. Dans tout ce qu'il a touché, il a réussi dans tout. Mmh. À part, évidemment, ce cancer.
Bon, ouais. Même s'il a lutté beaucoup plus longtemps que d'autres. Dans un instant, coup de pied dans la fourmilière aussi du monde des entreprises. On en parlera avec un entrepreneur d'aujourd'hui pour savoir ce qu'il garde comme image de Bernard Tapie. Et puis aussi le coup de pied dans la fourmilière de la politique dans un instant avec André Bercoff et Gilbert Collard qui sera avec nous et toujours Thierry Guerrier. Allez, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, merci d'être avec nous tout de suite avec Thierry Guerrier pour les grands débats. Bien sûr, on revient sur Bernard Tapie et André Bercoff est toujours avec nous. Oui. André, vous êtes là.
Oui, André, on vous a pas retrouvé. Ah, voilà, on vous avait perdu l'espace.
Oui, il y a des problèmes de son.
Non, mais tout va bien. Tout va bien. André, on aborde un peu le chapitre politique là. On a vu l'homme aussi qui avait quand même un grand cœur quand il a sauvé Avi Assouli là à l'instant. On a parlé de beaucoup d'autres choses. On reviendra sur l'acteur. Tout à l'heure avec Claire Jazz, notamment la comédienne qui a joué en fait avec lui, et le producteur Philippe Hersen et beaucoup d'autres. Mais sur la politique également, André, il en avait fait un combat notamment contre le Front National, et vous m'avez raconté cette anecdote un jour de Bernard Tapie qui va dans un meeting tout seul quasiment, quoi. Enfin, vous êtes derrière lui, mais vous n'êtes pas forcément très costaud, quoi.
Non, avec 600 personnes. Non, nous étions trois,
racontez-nous.
Quatre. Ouais. Et en deux mots, c'était pendant les législatives, et il nous dit, on était en train de prendre un verre, je crois, sur le vieux port, et il nous dit, allez, on va porter la contradiction, il y a un meeting du Front National, porter la contradiction. J'ai dit, oui, mais pourquoi faire ? Je vous la raconte assez rapidement, donc on y va. Bon, il y avait 600 personnes, et on entre, évidemment, tout le monde reconnaît Bernard Tapie, je ne vous dis pas la bronca, et je ne vous dis pas les mots qui étaient employés. On ne les dira pas à l'antenne, parce qu'ils étaient assez forts. Et puis, l'un des orateurs qui était là, il dit, non, le Front National est un parti démocratique, on laisse rentrer Monsieur Tapie, etc., il est là. On s'assied. Et l'un des orateurs dit à ce moment-là, il dit, oui, c'est vous, Tapie, avec votre propagande, qui est le fait que Marseille soit envahie, etc., etc. Bon. Et Tapie lève le bras, il dit, est-ce que je peux répondre ? Il dit, mais bien sûr, il saute sur la scène, et il dit, écoutez, je vais vous dire ce que je ferais si j'étais au pouvoir à Marseille. Ça, écoute, il dit, voilà, je mettrai tous les émigrés clandestins, hommes, femmes et enfants, dans des bateaux, et quand les bateaux prennent le large, j'envoie les torpilles. Applaudissements de la foule, applaudissements, il envoie. Et alors il dit, voyez ce que vous êtes, voyez, je parlais d'un génocide, je vous parlais d'un massacre, et vous applaudissez. Ben je vais vous dire, c'est pas Le Pen qui est un salaud, c'est vous. Regardez-vous dans la glace et gerbez-vous dessus. Et là j'ai vu les applaudissements qui commencent à... à baisser et à s'éteindre. Et je lui dis à ce moment-là, on s'en va, parce que ça va très mal tourner. Voilà, c'était ça, Tapi. Il lançait la ligne, il ferrait le poisson, et puis il répliquait.
Ouais, non, mais il fallait quand même un courage assez...
Ah, c'est clair.
Pour aller, en fait, comme ça, au sein d'un meeting. Mais juste, alors que c'était juste, en pleine guerre, quoi.
Mais écoutez, juste un mot, il faut dire que vous savez, lors de ce fameux entretien avec Le Pen, enfin, son fameux débat, son fameux pugilat, mais il y avait des tas de ministres qui n'avaient pas voulu aller, hein. Personne ne voulait y aller, et c'est pour ça que Tapi s'y est collé.
Oui. Avec évidemment, eh bien, on s'en souvient de ce débat qui avait été retentissant. On a sorti quelques petits extraits déjà ce matin. Gilbert Collard doit être avec nous également. Bonjour Gilbert Collard.
Oui, bonjour.
Bonjour. Député européen Rassemblement National. Alors, on parlait justement du Front National avec André, on va y revenir. Mais vous l'avez connu aussi avant, dans le monde, en fait, des affaires, où vous étiez face à lui en tant qu'avocat, Gilbert Collard. C'est de là que viennent vos premières passes d'armes avec Bernard Tapie, non ?
Bah, écoutez, oui, Bernard Tapie, je l'ai connu, hélas, dans les prétoires. Par la suite... on s'est retrouvé par le truchement de la télévision. Je l'ai connu dans l'affaire VAOM. Oui. Je l'ai connu dans l'affaire des comptes de l'OM. Et puis je l'ai connu d'une manière plus rocambolesque, plus théâtrale, quand il y a eu l'affrontement un peu oublié, mais qui était picaresque, entre Jean Édernalier et Bernard Tapie.
Ah oui, également. Oui, ça c'est vrai.
Ouais. Ça a été un moment qui à l'époque. A fait partie du quotidien médiatique avec le Don Quichotte qui voulait monter à l'assaut de Bernard Tapie. À l'époque, il y avait également l'inspecteur, je ne sais plus comment il s'appelle.
Godineau, non,
voilà, ouais. L'inspecteur Godineau, voilà, ouais. Grand merci, qui était parti en guerre contre lui. Il s'était présenté du côté de Marseille. Bon, ça a été épique, mais je l'ai surtout affronté dans les tribunaux. Moi, je l'ai vu comme une bête de scène dans le tribunal à Valenciennes, et puis à Marseille où il a fait une espèce de crise cardiaque en pleine audience sur laquelle on a beaucoup glosé. Et puis après, quand il a eu une émission de télévision, j'ai eu la surprise incroyable, de recevoir un coup de téléphone de lui,
oui.
Pour m'inviter à participer à l'émission. Je dois dire que sur le moment, je n'en suis pas revenu, mais il m'a parlé, et ça c'est un trait de son caractère qu'on doit quand même souligner, quelles que soient les vies que nous avons tous, hein, avec leur lumière et leur obscurité, hein. C'est un trait de son caractère qu'on doit souligner. Il n'avait pas de mémoire de haine, quoi. Ouais. Il n'avait pas de mémoire de querelle, il n'avait pas de mémoire de rancœur. Il n'a pas hésité à m'inviter dans son émission. On a parlé, un peu avant l'émission, on s'est tutoyé, comme si de rien n'était.
Alors que vous l'aviez attaqué devant les tribunaux, quoi.
Ben alors que je l'ai un peu envoyé en prison, quand même, avec l'aide indiscutable de M. de Montgolfier. Mais l'affrontement avait été d'une violence inouïe, mais cela ne l'a pas empêché. Comme j'ai failli tomber de mon fauteuil quand il m'a appelé. Hein. Oui. Bonjour, ici Bernard Tapie, j'ai une émission de télévision, est-ce que vous pourriez venir y participer ? J'ai dit oui, et je m'attendais quand même à ce qu'on ait une explication, un rappel du passé. Non. J'avais l'impression à ce moment-là que c'était un homme qui ne vivait que dans le présent, avec un pied dans le futur, et qui n'avait pas de mémoire, de grief.
Forcément de rancœur, quoi. C'est-à-dire, il était dans le combat, certes, mais il avançait toujours. André Bercoff, vous corroborez ce que dit à l'instant Gilbert Collard, ce que vous avez dit avec cette anecdote du meeting du Front National, c'est-à-dire qu'il allait toujours de l'avant, quoi.
Je crois que c'est quelqu'un, en fait, c'est pour ça, il n'avait pas, je dirais, une analyse politique. C'était pas un politique, il faut quand même le dire. Il gagnait à l'affect. Il gagnait effectivement à l'affect, avec son contact avec la population, etc. C'était d'abord, je rejoins Gilbert Collard sur quelque chose, non seulement il vivait dans le présent, mais c'était dans l'opportunité. C'est-à-dire quand une opportunité se présentait, il la prenait. Voilà. Il disait toujours, c'est comme l'oiseau qui passe, il faut l'attraper. Ouais. C'était ça aussi, lui.
Ouais.
Mais il a imposé un style, finalement, une liberté de parole que n'avaient pas les politiques à l'époque.
Bah, c'est... il y a une chose quand même très importante. C'est que pourquoi on le célèbre autant aujourd'hui et pourquoi on en parle comme ça? C'est parce qu'en France, vous savez, c'est quand même, on a les étiquettes. Il y a quand même une France très conformée, il faut bien dire très grise en général, en tout cas dans le domaine de la politique. Les gens font attention, ils ne disent pas, ils disent quelque chose, mais attention, j'ai mes élections, etc. L'autre, il n'était pas un politique, je veux dire, il ne pensait pas qu'il fallait se faire réélire. Il pensait pas du tout à ça. Il y allait comme ça à un moment donné. Et il faut dire encore une fois, avec son coach et son mentor Mitterrand. Ne jamais oublier que Mitterrand a été son coach et son mentor pendant toutes ces années. Ouais. Donc il allait au feu. Mais après, la preuve, et juste un mot, c'est que s'il n'était pas allé au feu comme ça, il se serait pas laissé avoir comme il s'est laissé avoir avec Adidas. Quand je dis, je veux dire, il n'a pas regardé ce qui se passait avec Adidas. Et là, il s'est fait doubler presque comme un bleu parce qu'il était dans autre chose. Et c'était le fils de l'ouvrier chauffagiste qui arrivait à être ministre de la ville, etc.
Oui, ouais, c'est ça. Il y avait une forme de naïveté assez incroyable. Naïveté, alors que
faut pas être...
Non. Bah, bien sûr, Gilbert Collard, c'est pas de la naïveté primaire, quoi.
Non, bien sûr, voilà. Non, mais là, je rejoins André quand il dit qu'il y avait une forme de naïveté. C'était pas une naïveté d'honnêteté.
Non.
C'était une naïveté, et je mets le mot avec infiniment de respect, hein. C'était une naïveté de parvenu dans un monde d'entraîner, d'exercer, de pratiquant de la combine, voilà. Et quand il est entré en politique, il y est entré sans aucune naïveté, parce qu'il était capable de mettre KO technique un adversaire, sans aucun état d'âme, c'était un combattant. Hein. Mais là, il s'est retrouvé au milieu d'un univers entraîné, qui peut mettre le coup de couteau financier dans le dos. Mais ce qui m'a le plus frappé chez lui... C'était ça. Moi, je l'ai vu comme ça. Je ne sais pas ce qu'André va en penser, mais j'ai l'impression qu'il jouait au dé avec sa vie, cet homme. Il était sa propre caravane, quoi, son propre parti. Il jouait du tapis et il avait une revanche indiscutable à prendre. Tout était jeu, quoi. Tout était théâtre. Oui. Peut-être que le moment de réelle gravité dans son existence. Est arrivé avec la maladie, hein, parce que c'est à ce moment-là que tout devient sérieux, quoi.
André, il jouait un peu avec la vie, entre guillemets, comme avec les dés.
Non, mais je crois que Gilbert Collard peut-être oublie juste quelque chose. Il y avait aussi, et c'est très important, il y avait quand même une permanence. Et la permanence, je répète, c'était sa famille.
Faut pas
oublier que le socle, le roc, etc. Non, mais c'était très important. C'est-à-dire que dans un monde un peu sans repère, lui, il avait ça. Il avait sa femme, Dominique, il avait ses enfants. Et je pouvais pas savoir, enfin, je l'ai fréquenté assez pour savoir à quel point. Et il s'est battu au bout, vous savez, avec la maladie, pour se dire, oui, mais alors si je m'en vais, qu'est-ce qui va rester à ma famille, etc. On va tout m'enlever, les hypothèques et compagnie. Et n'oubliez jamais ce qu'il a dit un jour dans une interview à la télévision, il a dit, j'ai demandé à un médecin, mais attendez, je fume pas, je bois pas, j'ai toujours été sportif, j'ai mené une vie très saine, qu'est-ce qui se passe? Ben, le médecin lui dit, vous savez ce que ça veut dire se faire du mauvais sang? Vous savez ce que ça veut dire se faire de la bile, au vrai sens littéral du terme? Effectivement.
Il nous l'avait raconté, on a diffusé un petit extrait tout à l'heure, à 9h moins le quart, là. C'était sa dernière interview accordée à Sud Radio en 2019. Merci André Berkoff, on va vous laisser préparer l'émission, et évidemment vous allez revenir tout à l'heure dans Berkoff dans tous ses états entre midi et 14h. Merci Gilbert Collard. On va poursuivre dans un instant. Thierry Guerrier, d'un mot.
Je suis frappé par ce que disait Alain Minc et cette formule de Bernard Tapie. Il n'y a pas de surhomme dans le combat face à la maladie. Et au fond, avec la façon dont il a géré la fin de sa vie et cette maladie, le fait de l'assumer, d'en parler publiquement, ça c'est il a donné un coup de fouet, si j'ose dire, un coup de main, une réhabilitation à tous ceux qui aujourd'hui mènent ce combat, que j'ai trouvé formidable et qui forcent le respect. Petit souvenir personnel, moi je me souviens très bien, ils nous bousculaient, nous les journalistes, j'étais jeune journaliste quand je l'ai interrogé sur France Inter ou sur La Vieille 5, et ils disaient, vous les journalistes, vous, et toi, et viens toi. C'était, ils venaient toujours.
Ils
ne se laissaient jamais faire, et en même temps, ils nous traitaient avec une forme d'empathie dès lors qu'on entrait dans le jeu.
Oui, absolument.
Et en juin 2021, il a dit, j'ai l'impression de ne pas être né pour rien.
Ouais.
Voilà.
Allez, dans un instant, du côté des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on en pense? Et avant de passer aussi à l'homme de théâtre, l'acteur, le chanteur qu'il était également, avec la comédienne Claire Jazz.
Claire Jazz, qui jouait notamment dans Oscar.
Et puis Jacques Messis aussi, qui sera avec nous.
Restez là, il est 9h30.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h34, on continue cette spéciale de Bernard Tapie ce matin. On va voir le côté entrepreneur avec Denis Père, qui est entrepreneur et fondateur des sociétés Business Object et Kiala, et président fondateur de ce parti Nous Citoyens.
Oui, bonjour Denis Père.
Oui, bonjour.
Est-ce que Bernard Tapie reste ou est ou n'est pas, au contraire, une référence pour des entrepreneurs aujourd'hui?
Écoutez, je crois qu'il le reste quand même, même s'il y a eu dans son parcours des excès. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va surtout retenir les côtés très positifs de sa contribution à l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui était un repreneur d'entreprise, à la différence de ce que j'ai fait moi, puisque j'ai créé des entreprises, effectivement. Lui était un repreneur. Il reprenait à la barre du tribunal, donc des entreprises en faillite, pour un franc symbolique, c'était des francs à l'époque, et il les redressait. Alors, on a beaucoup retenu à l'époque les licenciements, parce qu'il était obligé de diminuer les effectifs pour relancer ses entreprises, mais il a aussi sauvé beaucoup d'emplois, probablement des milliers d'emplois, en relançant des entreprises qui étaient condamnées et qui allaient disparaître.
Oui. Est-ce que il a monté les émissions Ambition à la télévision et, on le disait aussi, une école de commerce qu'il avait lancée dans la foulée, qui était un petit peu sur tout le territoire. C'est-à-dire que il savait, entre guillemets, vendre et se vendre et vendre le monde de l'entreprise.
Oui, il a été un des premiers entrepreneurs un peu emblématiques à cette époque à effectivement faire la promotion de l'esprit d'entreprise, ce qui était vraiment important, indispensable dans une époque où l'État était, elle est toujours d'ailleurs, très très présent, et les valeurs de l'entrepreneuriat étaient finalement peu promues. Donc il a fait cette promotion, et je pense qu'il a été à l'origine de la vocation de pas mal d'entrepreneurs, y compris la mienne, même si moi je regardais aussi beaucoup du côté des États-Unis et de la Silicon Valley, qui était plus mon modèle à titre personnel, à cette époque en tout cas. Lui incarnait effectivement une forme d'entrepreneuriat à la française, qui était bien nécessaire dans une époque où le tout État omniprésent faisait qu'on n'avait pas forcément envie d'entreprendre.
Oui, mais il dit j'ai échoué après dans le monde des entreprises quand j'ai commencé à faire de la politique. On ne peut pas faire les deux, Denis Père, et pourtant vous voulez vous lancer dans la politique.
Alors moi, j'ai essayé d'impacter le débat politique à plusieurs reprises. Lui est devenu ministre. D'ailleurs, effectivement, un des gros soucis, un des gros problèmes qu'il a eu est probablement lié à ça, puisqu'il a dû, quand il est devenu ministre de la ville de François Mitterrand, il a dû vendre en fait Adidas. Mmh. Et c'est là que son plus gros problème a commencé. Il a confié un mandat de vente au Crédit Lyonnais, et il a accusé ensuite le Crédit Lyonnais, alors à tort ou à raison, de l'avoir floué dans cette affaire. Donc il a dû faire des choix assez radicaux, effectivement, en se lançant en politique. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours cherché à impacter le débat politique en n'ayant plus d'obligations professionnelles en tant qu'entrepreneur. Je l'ai fait en 2013-2014 en lançant Nous Citoyens et en réussissant à obtenir que nos propositions soient reprises par deux candidats à la présidentielle, François Fillon dans une moindre mesure, Emmanuel Macron, et plus récemment en m'impliquant dans la primaire des Républicains. Mais les choses, effectivement, sont mal passées. On peut vous en parler deux minutes, si vous voulez.
Non, mais ça, on y reviendra dessus. Mais c'est vrai que c'est particulièrement important parce que bien souvent, dans le monde de la politique et puis dans le monde de l'entreprise, on se dit, finalement, pour mener un pays, est-ce que ce n'est pas comme une entreprise? Et donc, certains s'y sont essayés. Alors, près de nous, il y a eu Donald Trump aux États-Unis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, mais il a essayé d'aller adopter la même chose. Et Bernard Tapie, à l'époque, certains lui prêtaient cette ambition présidentielle pour mener le pays comme on peut mener une entreprise. Ça peut donner des vocations.
Alors, moi je ne crois pas qu'on puisse mener le pays comme on mène une entreprise. Par contre, je pense que dans l'entreprise, il y a des principes de fonctionnement, de management. Il y a cette culture du résultat dont peut largement s'inspirer le fonctionnement des services publics. On a en France aujourd'hui des services publics où il n'y a pas de culture du résultat, où le salaire d'un fonctionnaire, souvent d'ailleurs des gens de très bonne qualité, mais être complètement indépendant de leur contribution à la fin du mois ou à la fin de l'année, ce qui ne pousse pas les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc là, effectivement, l'État peut parfaitement s'inspirer du mode de fonctionnement d'entreprise, devrait même s'en inspirer.
Oui. Merci beaucoup, hein, Denis Père, pour votre témoignage. Donc, c'était aussi Tapie, l'entrepreneur, et qui avait construit un petit empire industriel dans les années 80. Merci de votre témoignage. Dans un instant, ça va être aussi Tapie, un peu l'acteur, et puis aussi le chanteur, tiens.
Je ne crois plus les filles avec leurs beaux serments. Je ne crois plus les filles, ce n'est plus comme avant.
Eh oui, ça
c'est pas
sonne
là où il était le plus talentueux.
13 années, ouais. Non, mais 13 années 60, ouais, il voulait vague, être chanteur. Ouais. Il a refait par la suite, bien sûr, avec Doc Gynéco. Et puis, bien sûr, il a joué
au théâtre, au cinéma.
On va voir ça dans un instant.
Oui, hein. Absolument, avec Claire Jasque, avec qui il a joué. Et puis, Philippe Hersen sera avec nous, producteur. Et il l'a produit, justement, dans cette pièce Oscar qui a été diffusée sur France 2. À tout de suite, il est 9h39.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h43 et on parle toujours de Bernard Tapie ce matin de cette facette qu'on a envie de mettre en avant, c'est son côté acteur.
Il avait toutes les facettes quasiment.
Ouais,
de la vie, quoi.
Il a tout essayé, il a tout fait.
Non mais c'est vrai, il a dit, on a diffusé un extrait tout à l'heure, qu'il n'avait pas bu et jamais fumé, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il était allé voir un médecin parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait ce cancer du côté de l'estomac, parce que il dit j'ai pas abusé, mais il s'était fait beaucoup de bile, évidemment, comme on dit, du mauvais sang,
et il avait pris du plaisir
en sortant de prison. Il a tourné en fait au cinéma, c'est ce que va nous raconter Jacques Pessis qui est avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Oui, parce que il a été aussi chanteur, acteur, comédien. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous. Et puis avec nos autres invités qui l'ont croisé ou qui l'ont mis sur les planches. Hein,
oui, alors il y a un producteur, un metteur en scène qui a travaillé avec lui sur Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais aussi dans Oscar. C'est Philippe Hersen. Vous êtes avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Et puis une comédienne, Claire Jasque, comédienne metteuse en scène, qui travaille aujourd'hui, qui est dans Plus belle la vie aujourd'hui, et qui, elle, a joué sur scène avec lui dans Oscar aussi, et dans Commissaire Valence. Bonjour Claire Jasque.
Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour Patrick.
Oui. Bonjour Claire, bonjour.
Bon, l'idée, avant de voir Claire Jasque, comment il était en fait sur les tournages et avec vous, Philippe Hersen, c'est vous qui aviez eu l'idée et puis vous aviez discuté avec lui pour Vol au-dessus d'un nid de coucou en 2001, c'est ça?
Tout à fait, oui, en effet. Moi, à l'époque, je montais la pièce de Jacques Attali, Les Portes du Ciel avec Depardieu, et il est venu en tant que spectateur voir la pièce de théâtre. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, à mon avis, vraiment, on connaît le charisme de Bernard. Je me dis, il y a une possibilité qu'il soit sur scène au théâtre. Et à l'époque, j'avais les droits de Joyeuse Pâques. Il m'a tout de suite refusé parce qu'il est toujours très catégorique. Bernard, non, sans intérêt, trouve-moi une autre pièce. Et j'avais les droits de Nicholson, enfin, les droits de Vol au-dessus d'un coucou. Et on est parti, voilà, sur Vol au-dessus d'un coucou un an après.
Est-ce qu'il est docile sur scène, en tout cas, est-ce qu'il est docile, parce que d'habitude on voit ses fracs, ses frasques, ses coups de gueule, est-ce que c'est un comédien docile?
Oui, je peux dire oui, c'est un comédien docile, mais surtout ce qui fait sa force quelque part, c'est qu'il arrive à maîtriser la scène. C'est un peu frustrant pour tout le monde. C'est vrai qu'il arrive à maîtriser les comédiens, la mise en scène, la scénographie. C'est l'homme des situations, mais il sent à l'aise comme partout. Cet homme à mille vies, il se sent à l'aise partout. Bernard, c'est pas toujours évident, mais quand nous on avait une telle amitié entre nous que c'était beaucoup plus facile à faire passer, c'est sûr.
En tout cas, il a joué avec Claire Jasque aussi sur scène. Claire, rebonjour. À quel moment vous avez rencontré Bernard Tapie?
Il m'a téléphoné. J'étais à Québec dans le cadre d'un festival d'humour et j'ai un appel sur ma boîte vocale et il me dit « Bonjour, je suis Bernard Tapie ». Bon, pas déjà. je vous ai vu au théâtre de la Michaudière dans la pièce « Un père et père » avec Roland Giraud. Vous ai trouvé très mauvaise.
c'est Bernard.
C'est pourquoi j'aimerais que vous jouiez à mes côtés dans Commissaire Valence. C'est comme ça que j'ai rencontré Bernard. Évidemment, j'ai cru que c'était une blague. Ensuite, j'ai un appel de la boîte de production qui me confirme l'appel de Bernard Tapie. Et puis bon, ben voilà, c'est comme ça. Ils m'ont fait revenir en urgence du Québec. Et je crois que le surlendemain, le surlendemain, je jouais dans Commissaire Valence, où j'interprétais le lieutenant Martine pour 11 épisodes. C'est comme ça que j'ai rencontré Bernard. Mais je pense que Bernard, c'est lui qui nous dirige. Hein.
Ouais.
C'est pas nous qui le dirigeons, c'est lui qui
C'était le boss. Lors des répétitions, par exemple, Philippe Hersen, comment ça se passait avec lui?
Ben bien, mais c'est le boss, Bernard. Et voilà, c'est le boss. Et d'ailleurs, je me rappelle sur l'exploitation parisienne, sur tous les spectacles que j'ai montés avec lui, il ne disait pas du tout l'entracte. Il ne parlait même pas du tout l'entracte. Il dit c'est la mi-temps. Allez, c'est la mi-temps. Comme au foot.
Difficile pour Bernard Tapie, Claire Jazz, de reprendre le rôle de Louis de Funès, parce que c'est quand même un rôle important à Oscar. Et en plus, 30 représentations indirectes sur France Télé, c'est quand même énorme.
C'est ça, c'est énorme, oui, difficile. Je ne sais pas si le terme difficile est vraiment adapté à Bernard, parce que tout est possible.
Ouais.
Avec lui. Et puis effectivement, il y avait Louis de Funès, et puis il y a Bernard Tapie. Il faisait du Bernard Tapie, et d'ailleurs c'était très délicieux. Et la comédie était adaptée à Bernard Tapie et à sa situation, à la situation actuelle de ce moment-là.
On va écouter un extrait d'ailleurs, écoutez.
Mais vous plaisantez, très cher, je vais épouser un baron.
Un baron? Mais un baron de quoi?
Un baron, fils de baron, petit-fils de baron d'ailleurs. Il n'y a que des barons chez eux, on ne peut pas mieux faire.
Voilà. Un baron.
Mais quand il était sur scène, Claire Jazz, ou quand vous étiez lors des tournages aussi pour la série, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir en face de vous un acteur, comme tous les autres acteurs que vous aviez pu croiser, ou alors Bernard Tapie? Peut-être difficile de dissocier en fait cette image, quoi.
Ce qui est bien, c'est que quand nous sommes comme ça, je vais dire, pas vraiment représentation, paradoxalement, même si nous sommes filmés, mais moi, j'ai vu un homme, quoi. J'ai vu un homme avec une grande gueule, bien évidemment, mais avec des petites failles, quoi. Et c'est ça, c'est en ça qu'il est très, très touchant. Parce que Bernard Tapie, on lui dit pas non à Bernard, tout le monde lui dit oui. Et en même temps, quand on lui dit non, il aime bien. Et ça le. Comment dire, il aime les gens avec du caractère et c'est ce qui a renforcé aussi.
Alors Philippe Hersen, j'imagine qu'en le dirigeant, s'il vous disait non alors que vous lui disiez bon, il faudrait peut-être se mettre là ou alors la jouer comme ça.
On arrive à pouvoir lui faire des choses, les déplacements et tout. C'est vrai que c'était pas toujours très évident parce que je donne un exemple précis. À un moment dans le décor, j'avais mis la cuisine à gauche. À court, et en fin de compte, il me dit chez moi, elle est à jardin. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas toujours très évident, mais c'est toujours avec bonne humeur.
Est-ce qu'il a douté, parce que ça n'était pas son métier forcément, est-ce qu'à un moment donné, il s'est demandé si. Jamais. S'il n'était pas dans le jeu, pas dans le.
Quand il va sur un coup, jamais. Il est toujours sûr de lui. Il est toujours sûr de lui. Mais par contre, il mène la troupe. Il mène l'équipe pour arriver au succès. Ça, c'est sûr. Dans tous les domaines, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, d'ailleurs.
Claire.
Oui, moi, je l'ai quand même vu traquer au direct sur France 2 le soir de Noël, quand la pièce est passée en direct. Je l'ai vu traquer 10 secondes. C'était fabuleux. D'ailleurs, on s'est fait un petit bisou, un petit Mickey. Et c'était fabuleux.
Pourquoi craquer? L'émotion, submergé par l'émotion, c'est ça?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur le fil, quoi. C'est vraiment du direct, quoi. Il n'y a pas de couper, on reprend, etc. Donc même s'il a du caractère, même si c'est Bernard Tapie, il y a quand même un texte à jouer. Et il y a cette petite faille, mais ça a duré 10 secondes. Attention.
Oui. Mais vous dites qu'il avait pris en otage, presque en otage, France Télévisions, puisque même après la représentation, ça continuait, le direct continuait.
Oui, c'est ça, en fait.
Avec Sophie, d'ailleurs. Ouais. Avec Sophie, tu te rappelles.
Une chanson. Moi, j'ai dû faire 2-3 petites répliques d'un sketch, parce que je pense qu'il a vendu 2h30 de spectacle. On en avait 2 heures.
Tout à fait.
Et il fallait prolonger une demi-heure.
Ouais. Jacques Pessis, restez avec nous, Philippe Hersen et Claire Jazz, encore quelques minutes. Jacques Pessis, vous êtes avec nous et vous êtes la mémoire de Sud Radio. Bernard Tapie, donc on l'a vu, c'était une bête de scène. Hein, c'était quelqu'un qui a toujours voulu aussi, en parallèle de ce qu'il a fait en montant des entreprises et de la politique, être acteur ou chanteur. On a entendu un petit extrait tout à l'heure.
Oui, mais il a toujours voulu être chanteur depuis ses jeunes années. D'abord, enfant, il avait appris le violon. Et quand il est revenu du service militaire, il a écrit des chansons et il a enregistré un premier disque sous le nom de Bernard Tapie, P-Y.
Oui.
Y parce qu'il y avait les yéyés. Oui. Et ça faisait tapaille en américain, donc c'était dans l'air du temps. Alors, les disques n'ont pas vraiment marché, ça s'appelle « Je ne crois plus les filles »,« Passeport pour le soleil ». Ils sont devenus cultes aujourd'hui, ils sont des collecteurs. Il a réenregistré des chansons en 85 avec Barbe Olivien, qui s'appelait « Réussir sa vie ». Mais son vrai succès, dont on a beaucoup parlé, c'est le disque qu'il a fait en duo avec Doc Gynéco,
oui.
« C'est beau la vie ». Rien à voir avec...
Un petit extrait, justement.
Un appel politique.
Oui.
Écoutez.
Doc Gynéco.
Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
le gangster
qui contrôle l'affaire.
C'est beau la vie.
Oh oui.
C'est beau la vie.
C'est beau la vie.
C'est beau la vie.
Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau la vie.
Très joli, gémissement.
Ouais, mais Philippe Hersen, Claire Jazz ou Jacques Pessis, il avait donc une gueule, ouais. Tapie. Ouais. Hein, évidemment, ça c'est important quand on joue, quand on est sur scène.
Et
puis il avait une voix aussi, non, Philippe Hersen?
Tout à fait, il a une voix qui porte bien, surtout au théâtre. Hein. Ouais, vraiment. D'ailleurs, c'était un peu frustrant. Moi, je vois le 4 sur Vol. C'était un peu compliqué pour les autres acteurs parce que ils étaient bien en dessous vocalement, c'est vrai.
Ouais. C'est dingue parce que quand on regarde toutes ces prises de parole, on a l'impression que c'est très théâtral finalement, que ce soit en politique, sur scène. Tout est toute une question de. On surjoue, on en fait des caisses tout le temps.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais c'est...
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Hein. Il est malgré tout en représentation, quoi. Et puis il a un charisme absolument incroyable. Quand il rentre quelque part, on voit que lui, hein, franchement, il dégage quelque chose de rare, en fait, Bernard.
Est-ce que quand il arrive sur scène, il est très, très applaudi, et ce qui est toujours pas, enfin, c'est pas toujours évident pour les autres comédiens, mais est-ce que, quoi qu'il fasse, il est toujours très applaudi?
Oui, et puis moi, je me rappelle qu'il me disait, tu vas voir Claire, tous les dimanches, il y aura la fourrure au premier rang. Et la fourrure, bon, vous avez compris ce que c'était. Et en fait, c'était les mêmes dames qui revenaient tous les dimanches en fourrure au premier rang, qui étaient là en train de bader Bernard, totalement sous le charme, comme beaucoup, beaucoup de gens, hein, franchement.
Et je vois même que sur Vol, Tsen et Coucou, on avait droit aux banderoles. Allez l'OM.
Ah oui, c'est vrai.
C'est énorme.
Ah ouais. Ouais, qui est banderoles.
Ouais.
Jacques
Pessis,
oui.
sur Bernard Tapie qui est passé donc par toutes ces facettes et qui aurait pu réussir une carrière absolument fabuleuse dans le monde du showbiz, quoi.
Ah ben un jour Lelouch lui a proposé le rôle de l'avocat dans L'aventure c'est l'aventure, il a refusé, c'est Aldo Macione qui a joué ce personnage et ça a été le grand regret de sa vie parce qu'il a toujours dit que s'il avait débuté avec Lelouch, il aurait fait une grande carrière de comédien. Et moi j'ai un souvenir que fabuleux, c'était un gala de la presse au Cirque d'hiver Bouglione où il a joué le monsieur Loyal. Il était extraordinaire et surtout il était heureux. J'ai parlé avec lui en coulisses, il avait les yeux qui brillaient comme les yeux d'un enfant. Vraiment.
Oui, merci Jacques. Oui, on a compris évidemment le sens de ce que vous disiez. Merci Jacques Pessis, Philippe Hersen également d'avoir été avec nous et Claire Jazz, comédienne aussi. Merci hein, pour tous ces souvenirs. On va continuer quand même à quelques reprises. On ne va pas faire que ça, mais on va continuer d'en parler parce que c'était un personnage quand même assez exceptionnel, personnalité hors du commun. Et tiens, vous savez, même avant de reprendre, ou alors qu'il reprenait des entreprises, il avait aussi un côté sportif. Hein,
Oui, c'est vrai.
Ben oui.
Ah ouais.
Il était allé en 84 participer à Gym Tonic.
Ah oui, avec
qui était la
Véronique
révolution.
Et Davina.
Véronique et Davina. Eh bien, Véronique qui sera tout à l'heure avec
Valérie Expert
dans
quelques minutes.
Ouais, oui, exactement. Absolument. Pour revenir évidemment sur cet aspect des choses.
Et on en parlera
choses.
Aussi chez André Berkoff.
Oui, bien sûr, ami personnel. Allez, à demain. On vous embrasse. Et puis les vraies voix aussi ce soir, Philippe, David et tous les rendez-vous, bien sûr, sur Sud Radio. Ciao, ciao.
Salut, passez une bonne journée demain. Salut.